Alors, le Saint-Esprit, Benoît XVI disait aux jeunes à Sydney en 2008 que le Saint-Esprit était le grand oublié. Lui-même, dans son expérience de jeune théologien, avait justement cherché à découvrir qui était le Saint-Esprit, puisqu'il connaissait bien le Père et le Fils, mais le Saint-Esprit, il disait qu'il le connaissait très peu. Le symbole des apôtres, ou le credo, ne mentionne la foi en la troisième personne de la Trinité que par ces deux formules brèves. Il a été conçu du Saint-Esprit et je crois en l'Esprit Saint. Cette concision sur la profession de foi en la troisième personne de la Trinité a demandé des éclaircissements. En effet, certains ont nié que le Saint-Esprit était une personne divine. Mais il faudra attendre le Concile de Constantinople en 381 pour qu'une formulation explicite du dogme sur le Saint-Esprit soit érigée. Pourquoi l'Église a tant tardé à définir le dogme sur le Saint-Esprit? Ce sera l'objet de notre première partie. Nous verrons ensuite quelle a été la contribution de ceux qu'on appelle les pères cappadociens. Donc la Cappadoce, c'est une région de Turquie actuelle, en vue de cet approfondissement de la doctrine sur le Saint-Esprit. Enfin, nous essayerons d'expliquer les différentes formules du symbole de Nicée-Constantinople qui ont approfondi la formule très brève que nous avons vue, je crois en l'Esprit Saint. Alors tout d'abord, pourquoi l'Église a-t-elle attendu tant de temps pour approfondir le dogme sur le Saint-Esprit? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 684, L'Esprit Saint, par sa grâce, est premier dans l'éveil de notre foi et dans la vie nouvelle qui est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Cependant, il est dernier dans la révélation des personnes. Et ce même catéchisme s'appuie sur saint Grégoire de Nazianze qui disait L'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, le Fils plus obscurément. Le Nouveau a manifesté le Fils, a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit a droit de cité parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils, et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression un peu hardie. Et il concluait, C'est par des avances et des progressions de gloire en gloire que la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. Ainsi, nous pouvons comprendre un peu mieux les raisons de cet approfondissement tardif. Il fallait d'abord, dans une première étape, que le peuple hébreu soit conduit au monothéisme, donc à croire en un seul Dieu, et se libère des idoles. Il fallait ensuite proclamer la divinité de la personne du Fils, qui était remise en cause par l'arianisme. Et enfin, après avoir manifesté le Père et le Fils, l'Église pouvait donc affermir la foi des croyants sur le Saint-Esprit. Alors, le Concile de Nicée en 325 n'a pas abordé la question du Saint-Esprit en tant que telle, puisque nous l'avons vu, elle s'est concentrée sur la question christologique, donc pour définir vraiment la divinité de la personne du Christ. Elle a simplement rappelé le symbole des apôtres et cette formule, je crois en l'Esprit Saint. Cependant, déjà certaines erreurs circulaient pour dire que l'Esprit Saint n'était pas Dieu, mais était une simple créature. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, donc les erreurs sur la doctrine du Saint-Esprit et les réponses qui ont été apportées par les pères cappadociens. Donc, la doctrine du Saint-Esprit dans cette période entre Nicée et Constantinople, donc de plus de 50 ans, va prendre davantage corps, particulièrement dans ces années qui vont précéder donc le Concile de Constantinople qui aura lieu en 381.